100% week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix en ce samedi 26 juin. Elle est avec nous, Laetitia Krupa, journaliste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil et spécialiste en communication politique. Bonsoir, bienvenue à tous les trois.
Bonsoir.
Et les inquiétudes qui se précisent autour du variant Delta, la forme du coronavirus qui a muté en Inde, les répercussions en Israël, en Australie, au Bangladesh, au Royaume-Uni, les premiers morts en France. Nous irons dans le Gers pour en parler. Nous évoquerons aussi les droits contestés des LGBT au sein même de l'Europe, direction la Hongrie. Ce qui vous a marqué aussi, interpellé cette semaine. Vous savez que veille de vote, il nous est interdit de parler des politiques régionales stricto sensu, évidemment. Nous sommes ensemble pendant une petite demi-heure sur Europe 1.
Wendy Bouchard,
les grandes voix.
Les grandes voix, on vous en parle depuis 18h. Deux Français de 42 ans et de 60 ans sont morts au centre hospitalier d'Auch, contaminés par le variant Delta. Ce variant qui contraint Israël de repousser d'un mois l'entrée des touristes sur son territoire et qui force donc Sydney notamment à réinstaller pour deux semaines un confinement strict. Tout cela nous engage, nous ne sommes pas dupes, Laetitia Krupa, à réfléchir aux conséquences en France. On est obligé de se poser la question, à quand de nouvelles restrictions chez nous ?
Oui, il faut se poser la question de la rentrée, puisque visiblement celle des vacances ne se pose pas, en tout cas immédiatement. Donc beaucoup d'observateurs prédisent un automne avec une nouvelle vague, quatrième vague, et peut-être des nouvelles mesures restrictives, comme vous l'avez dit, oui, en Israël, où le pays s'est refermé, et l'Australie qui referme pour 15 jours. Donc est-ce qu'il faut continuer ? Je pense que c'est l'accent que veut donner l'exécutif, à accélérer la vaccination, puisque les deux personnes qui sont décédées du Covid n'étaient pas vaccinées. Donc oui, visiblement. Après, comment faire ? Et ça, c'est tout l'enjeu des prochains jours. Très immédiat. Hein. C'est un enjeu très, très immédiat parce que le rythme de cette vaccination chute. L'exécutif s'en rend compte et multiplie les messages. Alors, est-ce qu'exhorter les Français à aller se faire vacciner suffit ?
Alors, je reviens juste sur ce que vous dites en préambule, Laetitia Krupa. Il n'est pas question, a priori, pour l'été. Ça veut dire quoi, Philippe Moreau-Chevrolet ? Il n'est pas question économiquement de gâcher à la fois les espoirs des Français, à la fois tout ce qui est lié à cette industrie du tourisme, des vacances, Philippe ?
Oui, il y a ça, il y a le tourisme, il y a la restauration qui attend depuis des mois et des mois qu'on la relance. Vous avez vu le monde de la nuit à qui on a fait des promesses de relance aussi.
Ouais,
il y a tout un pays aujourd'hui à qui on a dit que la crise était finie. Donc revenir en reconfinant ou réimposant des contraintes après avoir fait tout ça, ce serait difficile à gérer pour l'exécutif et pour le pays, ce qui fait que ben voilà, on a rentré dans un cycle, au fond, on a dit aux Français, c'est fini, c'est terminé. On l'a fait plusieurs fois. Mmh. Ça fait la deuxième ou troisième fois qu'on le dit. Mais cette fois-ci, avec la vaccination, c'est un peu plus concret. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que, a priori, pendant l'été, ça devrait aller, puisque les écoles sont fermées. Et on sait que les écoles, c'est un gros moteur de contamination dans tous les pays. Donc on devrait peut-être ne pas avoir de redémarrage trop fort de l'épidémie d'ici à la rentrée. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Puis à la rentrée, effectivement, là, c'est une autre paire de manches. Ce qu'il faudrait faire, c'est un petit peu ce que font tous les autres pays. C'est-à-dire ne pas miser que sur la vaccination, parce que le tout vaccinal, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir qu'en Australie aussi, ils se vaccinent. Enfin, dans tous les pays du monde, on se vaccine aujourd'hui, sauf dans les pays d'Afrique, les pays particulièrement pauvres, ce qui pose un autre problème. Et du coup, la question, c'est comment on sécurise, c'est-à-dire au fond, à côté de la vaccination, comment on fait pour sécuriser les restaurants, les discothèques, les écoles, pour bien préparer la rentrée. Et ce que font les autres pays, beaucoup de nos voisins aussi, c'est d'installer des filtres pour la qualité de l'air et contre les virus, et c'est d'installer des capteurs de CO2 pour vérifier quand il faut aérer. C'est-à-dire que les autres pays se préparent pour la rentrée activement.
Complètement, moi je reviens sur des projections quand même des différents centres européens qui en algorithme essaient de voir un petit peu la tendance de la propagation de ce variant Delta, qui serait majoritaire en Europe, autour de 90% à la fin de l'été. Donc tout ce qu'on peut élaborer pour la rentrée, j'allais dire, c'est caduc, c'est maintenant qu'il faut agir.
C'est peut-être trop tard, il faut agir maintenant. David. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de décalage entre ces différents nuages noirs, ce vent mauvais qui arrive et le sentiment de l'opinion publique. C'est exactement celui qu'on avait en mai-juin dernier. J'avais parlé d'une ambiance août 44 et qui est renforcée par la vaccination, qui est vue toujours comme le plus sûr moyen de retrouver le cours de nos vies normales. Dans l'indicateur hebdomadaire de l'IFOP sur l'inquiétude à l'égard du Covid, pour la première fois, on est à peine à 50% d'inquiétude, moins 22 points depuis le mois d'avril. On a une chute aussi assez forte sur la question des variants. Maintenant, c'est vrai que l'opinion publique, qui pour l'instant est sur une projection de fin de crise à très court terme, alors qu'il y a encore trois mois, on avait quand même deux tiers des Français qui se projetaient sur septembre 2022 pour la fin de la crise, peut aussi bouger relativement vite. On est vraiment sur une opinion qui s'est réseau-socialisée, qui est très aux aguets de ce qui se passe à l'échelle internationale. Et donc, je pense qu'il y a un temps de digestion de ces différentes mauvaises nouvelles. Et sans doute, la vigilance va être, à mon avis, augmenter. Elle va progresser, quand bien même il y a cette ambiance d'ouverture des cafés, des restaurants.
Et puis de volonté de profiter de ses vacances. Voilà. C'est ça le problème.
Et c'est clair qu'on a une opinion qui est tellement fatiguée par ces différentes mesures de stop and go que la projection sur les vacances est extrêmement importante. La part des Français qui nous dit « je ne partirai pas en vacances » est une des plus faibles qu'on a jamais mesurées. Quand bien même il y a des questions de pouvoir d'achat, on partira pas, mais on partira.
On partira, Félicie Jacrepa.
Je pense aussi que pour l'opinion publique, il serait salutaire d'avoir, pour une fois, une conclusion consensuelle de l'efficacité du vaccin contre ce variant.
Oui. Qu'il
donc,
l'est,
une conclusion
qu'il l'est
médicale, puisque nous avons vu pendant cette crise que cette cacophonie entre les autorités scientifiques ont mené aussi à une défiance généralisée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui incarnerait l'autorité médicale scientifique peut venir porter un peu la bonne parole, c'est-à-dire diffuser ce message que les vaccins sont efficaces contre ce variant Delta. Il faut vraiment être très clair dans les messages que l'on envoie à la population pour la rassurer, bien sûr, déjà d'une part, mais aussi pour l'inciter à aller se faire vacciner. Dire uniquement « allez-y, allez-y », ça ne sert à rien, Wendy. S'il y a de la défiance et s'il y a encore... comme dans le personnel, par exemple, soignant, enfin, qui reste
50% qui n'est pas vacciné.
C'est affolant, c'est affligeant, même ces chiffres-là. Il faut absolument que là, on arrive à retourner et à renverser la vapeur.
Et je pense que ce moment est particulièrement propice parce que dans le discours des Français sur la question de la politique et de la campagne de vaccination, on est passé d'un discours qui était « c'est à cause du gouvernement, les lenteurs, les dysfonctionnements » en janvier-février. Maintenant, on est plutôt, c'est à cause de certains Français.
Bah oui.
C'est à cause de certains soignants. Donc,
collective.
Un moment, comme vous le dites très justement, Laetitia, une parole très claire, massive, une campagne de santé publique France. Il y en a déjà, mais plus montrer que à quel point cette vaccination, même si ce n'est pas la panacée, effectivement, mais on a bien vu ces deux personnes décédées, une personne qui avait seulement 42 ans.
Ouais.
On n'est pas sur le quatrième âge dont on parlait pour mettre à distance le Covid. Peut-être c'est un moyen de mettre fin à ce palier où effectivement le nombre de personnes vaccinées diminue de jour en jour.
Alors, on va écouter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et Philippe Moreau-Chorelet, vous allez réagir justement sur cet appel à la vaccination. Qui doit le tenir ? On va parler de l'ARS, mais pas seulement. Gabriel Attal, cette semaine, mercredi.
Ce variant Delta représente 12 à 13% des contaminations en Île-de-France. Et surtout, deux territoires particulièrement sensibles retiennent toute notre attention. Dans les Landes, le variant Delta représente 70% des cas positifs détectés. Ce même département est par ailleurs le seul département où nous observons une hausse de l'épidémie et le seul département de l'Hexagone à être passé au-dessus du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Ce département des Landes a connu une augmentation de son taux d'incidence de l'ordre de 10% sur une semaine. Dans le Bas-Rhin, ensuite, une soixantaine de cas du variant Delta ont été détectés avec plusieurs clusters, foyers, notamment à Strasbourg.
Voilà, et le problème, c'est que ce virus, par définition, ne connaît aucune frontière, ne connaît ni département, ni région. Et c'est bien le problème, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est qu'on peut lancer, comme l'ARS, l'Agence régionale de santé en Occitanie, qui l'a fait très activement, un appel à la vaccination, mais Laetitia Crupa... a sans doute raison, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut qu'Olivier Véran, il faut que le Premier ministre sorte désormais très rapidement.
Oui, et puis je pense qu'il faut à un moment donné se demander s'il ne faut pas la rendre obligatoire, cette vaccination. Alors, on est en année électorale, donc on ne veut pas imposer des choses aux gens. Mais il y a un moment où, notamment pour les soignants, le gouvernement y réfléchit et il a complètement raison. Il va peut-être falloir passer à l'obligation vaccinale. On est très encadré en France au niveau des vaccins. Il y a beaucoup de vaccins qui, de fait, sont obligatoires, notamment pour les enfants. Il y en a qui sont obligatoires pour voyager. Vous ne pouvez pas aller au
Sénégal.
Pour
les soignants aussi, Philippe.
Passer vos vacances. Oui, pour les soignants aussi, absolument. Il y a au fond, cette obligation vaccinale. on ne comprend pas très bien pourquoi elle ne serait pas mise en place. Les pays dans lesquels elle est mise en place, ça se traduit par des taux de vaccination de 97%. Mmh. Donc, ce n'est pas quelque chose, les gens ne vont pas refuser au risque d'une sanction pénale de se faire vacciner. Et au bout d'un moment, il faut savoir quel est le plus important. Sur la communication, c'est tout à fait juste ce que dit Laetitia. Il faudrait aussi expliquer ce que c'est que ce variant. C'est-à-dire qu'en gros, ça ressemble plus à une grippe classique que la maladie d'origine. Donc on a des symptômes beaucoup plus vite, on les contagie aussi beaucoup plus rapidement. C'est plus lisible, si vous voulez. Par contre, c'est beaucoup, beaucoup plus contagieux. Et on a des cas où des gens se croisant en terrasse ont pu se contaminer. Alors, ce n'est pas complètement confirmé, mais c'est de cet ordre d'inquiétude-là.
Et puis,
dans
c'est un variant,
médical.
Pardon Philippe, mais qui circule 5 fois plus chez les moins de 25 ans. Donc, la réouverture des discothèques le 9 juillet, pardon, mais elle inquiète un petit peu aussi. Accessoirement.
Oui, puis les écoles. Les écoles, on vit en France dans un fantasme qui est unique au monde, hein, où on explique que les enfants ne sont pas contaminés et pas contaminants. C'est faux.
Mais donc par chance, qu'on réfléchisse c'est la fin des cours le 6 juillet.
À sécuriser. Oui. On peut profiter de l'été pour sécuriser les écoles. Dans le 9e arrondissement où j'habite, on a des filtres HEPA pour la qualité de l'air, on a des capteurs de CO2, on a des moyens de lutter contre le virus, mais 90% des écoles françaises sont démunies de moyens de lutter contre ce virus, ce qui met en danger absolument tout le monde.
Frédéric,
et si on veut ouvrir sur la durée ces établissements comme les restaurants, c'est plus simple de dire aux restaurateurs, voilà ce que vous pouvez faire, le risque zéro n'existe pas de toute façon. Mais voilà ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le risque soit le plus bas possible. Ce capteur-là, voilà comment ça marche. Ça coûte 30€, donc ce n'est pas un investissement dingue.
Ah mais là, si on se projette sur le mois qui vient, c'est très compliqué pour les restaurateurs. Alors, en août, pour certains restaurateurs, c'est un mois blanc et il faut que le personnel parte en vacances. Donc il reste un mois qui va être encore déterminant, crucial et qui peut-être va amener à une rentrée compliquée, Frédéric Dabi. Donc tête des gens, c'est... C'est dur.
Oui, dans la tête des gens, c'est dur. Donc, pour ces acteurs économiques, alors c'est vrai qu'on a vu, c'était l'interview qu'on avait commenté de Bruno Le Maire dans le JDD il y a 15 jours, que les indicateurs de consommation sont plutôt excellents. Et c'est toujours une constante en France que même dans les périodes de crise les plus compliquées, l'indicateur de consommation est bon. Mais ça ne suffira pas pour rattraper toutes les pertes. Et on voit, en se promenant dans les rues des grandes villes ou ailleurs, le nombre d'établissements qui ferment. Et c'est vrai que se préparer avec des contraintes, c'est quelque chose qui peut être pas audible, entendable dans ce court période jusqu'à la fin du mois de juillet.
Alors, la politique de la vaccination réactive, quel que soit celui qui la porte, c'est déjà quand même une bonne gage, sachant qu'on a seulement 18 millions de Français qui sont totalement vaccinés, 30 millions de Français qui ont reçu une première dose et qu'on sait que l'immunité, c'est 80% de la population.
Oui, c'est bien le gros problème. En plus, avec ces départs en vacances, on sait bien que si on a fait une première dose, là, en fait, les Français freinent cette première dose.
Mais il faut vraiment encourager.
Parce qu'ils veulent calculer et que la deuxième, ça tombera pendant leurs vacances et donc ce n'est pas pratique. En fait, il faut vraiment, je crois, faire appel au pragmatisme. Là, c'est bon, on a plus d'un an de recul sur cette pandémie.
Oui.
On voit qu'on n'en est pas sorti. Et donc, faisons appel au pragmatisme et essayons peut-être de développer, j'en sais rien, je ne suis pas au gouvernement, mais les centres de vaccination sur les lieux de villégiature et les Landes, où là, le variant se développe. C'est quand même une terre de tourisme très importante en France. Or, beaucoup de Français disent qu'ils vont rester sur le territoire national. Il faut quand même, là, c'est vrai que c'est dans l'urgence, malheureusement, parce que l'épidémie ne prévient pas, par définition, mais il faut que le gouvernement reste sur le pied de guerre. On parlait de guerre en mai, il y a maintenant un an et demi, on y est encore, Wendy, parce que là, si à nouveau des pays ferment, on ne va pas repartir comme ça pendant 10 ans.
Voilà,
on commence à être vacciné.
C'est ça, et puis il faut sortir de la trêve de la communication vaccinale, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est ça aussi, c'est la mue que doit opérer, et Jean Castex et Olivier Véran qui voulaient communiquer sur autre chose que sur la pandémie, ils sont rattrapés par l'actualité.
Oui, il faut communiquer sur le vaccin, c'est important, il faut expliquer à quoi sert un vaccin, comment ça marche. Il faut expliquer aussi, je pense, que dans l'histoire de la France, on a combattu des virus qui étaient mortels, qui tuaient y compris des membres de la famille royale, comme la variole, et des gens jeunes, c'était 17, 18 ans. Ça tuait dans toutes les catégories sociales des gens extrêmement jeunes. On l'a tué tout ça par ce virus, on l'a eu par la vaccination. Rappeler ça, c'est important. Et puis faire une campagne sur la contamination aérosol, expliquer aux gens qu'on se contamine par l'air qu'on respire. C'est important parce que ce n'est pas toujours compris.
D'où le port du masque à l'intérieur. Il y a du relâchement beaucoup, les mariages, les anniversaires.
Il y a énormément de relâchement. Les mariages, effectivement, c'est un bon exemple que vous prenez parce que si vous avez un prêtre qui fait son sermon avec des gens qui chantent, et qu'au bout d'une demi-heure, il mette le masque parce qu'il se dit « là, je vais me rapprocher des gens et j'ai vu ça, donc ça existe. Je vais me rapprocher des gens, donc je mets le masque. » Non, c'est déjà trop tard. Si on a chanté pendant une demi-heure, si quelqu'un est contaminé, il a contaminé tout le monde. Donc c'est expliqué. Je ne pense pas que les gens qui font ça soient bêtes ou quoi que ce soit. Simplement, si on n'explique pas aux gens comment on se contamine, comment veut-on qu'ils se protègent eux-mêmes? Et depuis le début de cette crise, c'est le problème.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, on a fait un petit tour de ce variant Delta qui doit nous préoccuper. Voilà ce que dit le porte-parole du gouvernement. Les éclairages à 19h de notre invité, le professeur Philippe Amouyel, épidémiologiste sur le sujet. Et puis nous, on se retrouve jusqu'à 19h. On va parler des droits des LGBT, les marches des fiertés en France, aux États-Unis, avec la polémique hongroise également sur le sujet. A tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix, on débat jusqu'à 19h. Il est 18h50. Si vous nous rejoignez avec la journaliste politique Laetitia Krupa, le directeur général de l'IFOP Frédéric Dabi et le spécialiste en communication Philippe Moreau-Chevrolet, on a parlé du variant Delta et nous évoquons maintenant cette marche des fiertés, alors qu'il y a eu lieu par exemple hier, vendredi, en Israël. Aujourd'hui, à Paris, notamment, grand défilé annuel de cette communauté homosexuelle, bi, trans, partie de Seine-Saint-Denis aujourd'hui, placée sous le signe des droits, avec des témoignages, assumer son homosexualité en banlieue, dans les territoires enclavés. Cela reste encore très, très difficile. Ces personnes LGBT qui vivent dans les quartiers défavorisés sont d'autant plus fragilisées par rapport à leur situation que d'autres. D'où la nécessité de faire encore progresser les droits. Alors je ne sais pas ce que donnent les enquêtes d'opinion aussi, de réflexion sur ce sujet, Frédéric Dabi.
Oui, alors ce qui est très intéressant, parce qu'avec l'IFOP, en tant que plus ancien institut, on a un vrai suivi longitudinal de l'acceptation de l'homosexualité et donc des droits. J'ai retrouvé une enquête qui n'est pas si ancienne que ça. En 1975, Wendy, on avait 64% des Français qui disaient que l'homosexualité était une perversion à combattre, 42%, ou une maladie qu'on devait guérir à 22%. Au fur et à mesure, avec les premières lois, avec la dépénalisation sous François Mitterrand, avec le PACS, avec le mariage qui était soutenu par les Français, on est maintenant à 89% des Français qui déclarent que c'est une façon comme une autre de vivre sa sexualité. Mais sortons de la question majoritaire. Un Français sur 10, c'est toujours sur une stigmatisation. C'était très symbolique que cette marche des fiertés parte de banlieue, parce qu'on sait que les homosexuels en banlieue sont plutôt parfois extrêmement persécutés. C'est vrai qu'il y a quelques élus politiques qui refusaient de voir cette réalité pour ne pas stigmatiser telle ou telle population. On est à une veille de vote, je n'en dirai pas plus. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont fortes. Ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point l'opinion publique est passée de l'acceptation à la question des droits. Contrairement à ce qui peut être dit à l'époque du PACS, le PACS était soutenu par une majorité de Français. Même chose pour le mariage, la loi Taubira, et sur la PMA, et voire sur la GPA. Ce qui me frappe, c'est à quel point l'opinion publique française s'est rapprochée, s'est unie. Les clivages, notamment générationnels et politiques, se sont très fortement affadis.
Ah, c'est très intéressant. Alors, en France et ailleurs, vous qui scrutez pas mal les États-Unis, Laetitia Krupa, le président Joe Biden a célébré hier le retour du mois des fiertés à la Maison-Blanche et a nommé une envoyée spéciale pour la défense des droits de la communauté, par exemple. Donc, voilà, ça peut régresser sous certains mandats. Et puis, heureusement, il y a quelques reconquêtes.
Oui, évidemment, on sait bien que les démocraties occidentales, en règle générale, je dis bien en règle générale, sont quand même un peu... au départ de ce type d'acceptation globale, sociale, il y a quand même des mentalités qui s'ouvrent davantage parce qu'on a plus de liberté de penser déjà, a priori. Donc, quand on regarde, par exemple, le Monde, Wendy, donc tout ça pour dire qu'aux États-Unis, ça ne m'étonne pas, franchement. Mais quand on regarde une enquête de l'Ipsos, pardon Frédéric, qui a été faite en 2021 sur 27 pays, ce qui est vraiment frappant de noter, c'est le côté tabou de l'homosexualité, puisque par exemple, je vous cite un exemple, un item, 66% des Brésiliens disent qu'ils ont dans leur entourage amical, professionnel, familial, une personne homosexuelle. Quant au Japon, ils sont simplement 7%. Je ne pense pas qu'au Japon, quantitativement, il y ait moins de personnes homosexuelles, mais vous voyez, il y a encore cette honte uniquement de dire que l'on connaît dans son entourage une personne homosexuelle. Donc vous voyez bien le gap entre les différentes cultures. Et un autre enseignement de ce sondage très intéressant, c'est par exemple dans l'acceptation dans le sport. Oui. Il y avait à peu près sur tout, alors là c'est tous les pays confondus, 50% qui pensaient qu'effectivement il fallait accepter, tolérer bien sûr l'homosexualité dans le sport, mais seulement 30% accepteraient qu'un athlète se présente avec le sexe qu'il a choisi, l'identité qu'il a choisi. Donc vous voyez, dans l'acceptation, il y a encore... Voilà, c'est très lent, on le sait. En France, quand même, je trouve que quand on regarde les 50 dernières années,
l'évolution est fulgurante.
L'évolution est fulgurante. Ouais. Juste
sur quelques
à noter.
Poches, notamment le sport, où ça a été très lent en France.
Mais à noter, il y a quelque chose de, en ce moment là, qui tourne sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est l'INA qui a fait ça, un petit montage entre 1979 et 2020. Ils sont allés reposer la même question qu'ils avaient posée en 1979. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des PD ? Je vous assure, je le dis sciemment parce que c'est vraiment le terme employé. C'est fait exprès, évidemment. Hein, pardon, ce n'est pas une injure gratuite. Mais c'est vraiment très intéressant la réaction des Français à cette interview. C'est en ce moment sur INA.fr. Allez regarder et vous allez voir qu'en 2020, le terme PD, quelle que soit la personne interviewée, ne passe plus du tout.
Ça accroche, ça écorche. Hein, oui, en
exactement.
Effet. Et comment, de surcroît, merci à tous les deux, parler le même langage au sein de l'Union européenne avec Philippe Moreau-Chevrollet, un président hongrois qui demande à ses députés d'adopter une loi pour interdire la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. Donc dans les livres, les séries, les films, les pubs, on va gommer l'existence de ces couples, de cette vie sexuelle. On gomme pour remplacer par une autre éducation. Ça, comment est-ce possible et comment on s'en sort? Alors Emmanuel Macron a voulu monter au créneau à Bruxelles cette semaine. C'est compliqué hein, d'y aller avec des termes diplomatiques et de ne pas faire d'ingérence.
Oui, alors c'est pas la première fois que ça pose des problèmes diplomatiques, hein, puisqu'on sait que des pays comme la Tchétchénie, par exemple, ont des politiques extraordinairement répressives contre les homosexuels. La Hongrie, c'est un problème très puissant, très récurrent et qui devient de plus en plus préoccupant. Ça teste un peu les limites de l'Union européenne. Et au fond, la vraie question qui est posée, moi je trouve, hein, depuis le début de la crise des réfugiés, depuis le début de sa montée en puissance, de son acuité de la crise des réfugiés aux portes de l'Europe, etc., c'est le problème des valeurs. C'est-à-dire, ok, on a créé une Europe, on est 27, on est voilà. Mais quelles valeurs on défend ? Et au-delà des discours, et au-delà de soyons généreux, soyons sympathiques, on est tous gentils, comment on les défend concrètement ? Et qu'est-ce qui se passe quand un membre comme la Hongrie bafoue les droits humains ? Alors, on botte un petit peu en touche quand on dit, oui, c'est un régime illibéral, on va aller sur d'autres questions, mais au fond, la vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire avec des pays qui ont ce type de politique ?
Oui.
Est-ce qu'il y a un moment où on ne devrait pas, quelque part, si on voulait rendre l'Europe plus forte, exclure des gens comme ça et se dire, on va finalement faire une Europe peut-être plus basée sur des valeurs et sur le désir d'être ensemble que sur un simple marché commun, ce qui était la première chose. Ce serait un message fantastique parce que ça donnerait du corps à l'idée européenne qui s'est un peu perdue en chemin. Et la crise du Covid n'a pas aidé non plus. C'est un peu perdu en chemin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, on finit par ne plus très bien savoir à quoi sert l'Europe ou ce que défend l'Europe, à part éloigner la décision politique du citoyen.
Ouais.
Quel rôle ça remplit ? Donc il serait important de mener ce type de combat. Moi j'espère, à titre personnel, que l'Europe va avoir le courage de peut-être se séparer de la Hongrie s'il le faut.
Oui, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, Philippe, parce que moi, je m'étais fait la réflexion aussi avec la Pologne, où vraiment, on est très, très loin de la Pologne en termes de droits de l'homme, de droits de la femme. Et il y a, comme ça, en Pologne, des zones interdites aux LGBT. C'est interdit, c'est des commerces. Enfin, il y a une réalité polonaise qui est tellement loin des allées-lumières de ce qu'on vit. Et c'est vrai que je m'étais fait la réflexion il y a longtemps maintenant de me dire pourquoi ce pays qui est si loin de nous en termes de valeurs reste dans cette Union européenne. On peut imaginer une Union européenne, un marché commun en tout cas qui subsisterait pour valoriser l'économie, mais une Europe resserrée autour effectivement de valeurs communes.
Et je rebondis sur le terme de valeur parce que l'UEFA s'est défendue en disant on ne va pas éclairer
du drapeau
arc-en-ciel, le stade de Munich, parce qu'on est une organisation non politique, non religieuse. Mais qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans ? Ce sont des valeurs, ce sont des droits humains, c'est bien ça le problème.
Oui. Tout est politique et rien ne l'est. Hein. En 1936, le comité olympique s'était complètement déshonoré avec les Jeux de Berlin. Il y a eu après d'autres types de manifestations organisées par des pays très dictatoriaux qui n'avaient rien à voir avec les valeurs universelles. Et c'est vrai que l'UEFA a perdu sans doute une occasion de poser un acte lourd.
Ouais. Frédéric Dabi, Laetitia Crepa, Philippe Moreau-Chevrollet, merci infiniment à vous trois, les grandes voix qui reviennent demain. Et puis au cœur de cette soirée électorale, deuxième tour des régionales, à partir de 20h, on pourra vous donner cette fois, plus que des tendances, les premiers résultats. Merci et vous nous rejoignez, c'est pour l'info.